Heureux d'être avec vous. J'aimerais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 11. Un texte que la plupart d'entre vous connaissez, ce qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce titre, parce qu'il est tellement incomplet. Et je préfère l'appeler la parabole des deux fils. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vut et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et il lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. C'est un beau texte que j'aime particulièrement. En plus, c'est dans l'évangile de Luc, alors forcément. En fait, ce que je voudrais partager avec vous, le titre du message, c'est « Ne passe pas à côté du plan de Dieu ». Et on peut passer à côté du plan de Dieu de différentes manières. Et ici, on a deux exemples de deux personnes qui passent à côté du plan de Dieu. Ça paraît évident pour le premier des fils, mais c'est moins évident pour le deuxième. Et pourtant, vous allez voir que c'est le cas. Le premier fils, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, et je pense, je me mets à la place du père, il n'a pas vécu un moment très agréable. C'est vraiment pas sympa quand on a son enfant qui nous explique en quelques mots, tout ce que tu me donnes, tout ce que je veux avec toi, c'est nul, c'est bidon. Je veux aller ailleurs. Même si on peut comprendre qu'à un moment donné, nos enfants ont envie d'aller voir ailleurs, c'est le cours des choses, on aimerait que ça se passe mieux, quoi. Et je pense que là, déjà, on a une image de ce qui peut se passer dans le cœur de Dieu quand une personne refuse ce que Dieu lui donne. Alors que Dieu nous donne tout. Quand on voit la description un peu de cette famille, de ce lieu où ils vivaient, quand on voit ce que le père dit même au fils aîné, hein, tu as tout à ta disposition, le fils cadet qui, quand il est en train de regarder la nourriture des cochons, il se rappelle, et c'était quand même un endroit bien, quoi. On avait tout ce qu'il fallait. Mais pourtant, on se rend compte que malgré que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, mais parfois on le refuse. L'homme est assez bizarre en fait. C'est une machine un peu curieuse, qui est curieuse pas parce que c'est Dieu qui l'a créée, parce qu'à un moment donné, il y a eu la faute originelle qui fait que l'homme aujourd'hui ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Et notamment, je vous rappelle, je pense que vous le savez, la définition du péché, ce n'est pas voler, mentir, dire des gros mots, etc. Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu a préparé pour nous. Et vous pouvez avoir une vie très bien, vous pouvez faire des choses très bien et être dans le péché, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu pour votre vie. Et ce fils prodigue, il avait tout, et pourtant il voulait autre chose. Ça, c'est notre caractère. Et on a souvent, évidemment, quand on a tout ce qu'il faut, on veut toujours autre chose. Et on a des maris qui sont comblés par leur épouse, mais qui sont capables d'aller chercher une femme ailleurs. On a des enfants qui ont des familles qui ont pris soin d'eux, qui sont capables de partir à 16 ans, 17 ans, claquer la porte et ne pas être contents. Parce que, en fait, il y a un vide dans le cœur de l'homme qu'il n'arrive pas à remplir. Il y a toujours une insatisfaction. Il y a toujours, c'est toujours mieux à côté, en fait. Ce qu'on n'a pas, c'est toujours mieux que ce qu'on a. Et le fils prodigue était un peu dans cette logique. Il ne va pas hésiter même à faire souffrir son père pour vouloir ce qu'il veut. Et je pense qu'une des problématiques du monde d'aujourd'hui et qui fait que les gens refusent Dieu, c'est qu'ils sont très centrés sur eux-mêmes. Et ils sont tellement centrés sur eux-mêmes bien qu'ils refusent ce que Dieu peut donner et qui est différent peut-être de ce à quoi ils aspirent. Et en fait, je dis toujours que nous avons des désirs. Mais Dieu sait ce dont on a besoin. On le sait alors aussi en tant que parents. Nos enfants veulent des choses, mais nous, on sait ce dont ils ont besoin. Et qu'il y a certaines choses, ils n'en ont pas besoin. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Et je sais que je me rappelle, étant plus jeune, où j'avais cette problématique de ne pas discerner ce dont j'avais besoin, mais d'être plutôt tourné vers ce que je désirais. Et on est tous comme ça, avouez-le. On est centré sur ce qu'on désire et on recherche moins ce dont on a besoin. Or, j'aimerais vous dire une chose importante. Dieu sait ce dont on a besoin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il est rappelé, Jésus rappelle, « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. » Il nous dit de ne pas être comme les païens qui cherchent la nourriture et enfin, toutes ces choses. Et je pense que le fils prodigue avait du mal avec cela. Et il va partir à l'aventure et donc passer à côté de la destinée de Dieu pour sa vie. Passer à côté de la destinée de Dieu, dans son cas, c'est terrible parce que ça va l'amener vraiment dans des choses qui vont le plonger dans la débauche, dans des choses mauvaises et même l'amener à être dans une attitude d'humiliation totale. Je ne vous le souhaite pas, évidemment ce soir je le souhaite à personne, mais j'ai remarqué que parfois, quand on résiste à Dieu, Dieu ayant un amour tellement puissant, va nous amener jusqu'à un endroit où on va être obligé de plier le genou devant lui. Et c'est vrai que d'abord, dans la première phase de ce moment, on dit « mais Dieu il est méchant ». Et peut-être que vous regardez quelqu'un qui s'est éloigné de l'Église, s'est éloigné de Dieu, qui est dans la galère, vous dites, mais Seigneur, c'est injuste ce que tu lui fais vivre. Mais sachez que Dieu, il recherche toujours le salut de la personne. Et peu importe le prix, parce que ce qui compte, ce n'est pas la vie qu'on vit ici, vous le savez. Ce qui compte, c'est l'éternité. En fait, nous, on n'est pas au même étage hein, que Dieu. On a du mal. On s'en rapproche. Hein, quand on vit avec lui, on monte un peu, mais comme le dit Esaïe, hein, les pensées de l'Éternel, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et parfois, il y a des situations qu'on ne comprend pas, mais en fait, Dieu, lui, voit beaucoup plus loin que nous. Dieu voit beaucoup plus loin. Je ne sais pas, peut-être ce soir, quelqu'un est dans la difficulté. Tous ceux qui sont dans la difficulté ne sont pas forcément des gens qui se sont éloignés de Dieu. Je suis bien clair là-dessus. Mais peut-être que quelqu'un ici ce soir est dans la difficulté et il réalise que peut-être il s'est détourné de ce que Dieu lui avait demandé. Sache que parfois dans la difficulté, le Seigneur permet que nous revenions sur le chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène au salut. C'est l'obéissance à Jésus-Christ. Bien sûr, il y a la croix au départ. Mais derrière, il y a l'obéissance à Jésus-Christ. Amen. Voyons le deuxième fils. Le deuxième fils dont on ne parle pas souvent, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça que je dis que le titre de la parabole, il n'est pas bon, quand on dit la parabole du fils prodigue. Le deuxième fils, c'est intéressant de voir son attitude. Moi, je dirais, si je n'ai pas l'œil exercé, c'était un chrétien. Hein. Il vivait dans la maison du Père. Donc vous savez que dans la parabole, l'image du Père, c'est Dieu. Hein. Donc il vivait dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Il suivait le Père, il suivait le Seigneur. Il dit même, j'ai toujours obéi à ce que tu m'as demandé. Donc il obéissait, parfait. Tout était bien, tout a l'air super bien. Et parfois, tout a l'air bien dans nos vies. Hein. Et même, on s'est convaincu qu'on est des bons chrétiens. On va à l'église, on a son culte personnel, on fait même un culte de famille quand on a des enfants. Enfin, tout est bien. Sauf qu'à un moment, il y a un petit événement qui arrive là et qui révèle ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec ce frère aîné. Ce frère aîné qui était bien sous tous les angles, là, d'un seul coup, sa nature pécheresse va être mise à jour. Alors que son frère, qui a été proche de la mort, son frère qui aurait dû lui manquer pendant tout ce temps, moi j'ai 4 frères, et je pense que voilà, s'il y en avait un qui avait quitté la maison comme ça, ça m'aurait affecté. Et j'espère, je pense que j'aurais été content le jour où il serait revenu. Mais là, en fait, le problème, il est où? C'est que cet homme, malgré qu'il était présent dans la maison de son père, malgré qu'il obéissait à son père, il avait développé de la rancune et de l'amertume. C'est flagrant quand on voit sa réaction. Je n'ai pas besoin d'avoir fait un master en psychologie pour savoir que ce gars-là, il a développé de la jalousie, de l'amertume. Bon, après, humainement parlant, je ne lui jette pas la pierre. Hein. Son père a travaillé dur, lui, il a travaillé dur, et puis le fils, il a pris pas la moitié, mais une bonne partie de l'héritage, puisque l'aîné avait le double hein, du fils. Donc normalement, ça fait un tiers, si je ne suis pas trop nul en maths. Et donc, il a dit... En fait, il serait revenu en ayant fait fructifier cet argent, ça aurait été bien, mais là, il a dilapidé, il a tout gâché. Et donc, il y avait de quoi être un peu en colère, on l'avoue. Hein. Mais lorsqu'on suit le Seigneur, lorsque vraiment on est en intimité avec le Seigneur, les pensées d'amertume, nous devons avoir le réflexe de les évacuer. Même si ce qui est à l'origine de l'amertume est justifié. C'est-à-dire, là c'est justifié qu'il ne soit pas content, le gars, vous êtes d'accord? c'est justifié. Mais même si c'est justifié, il ne doit pas accepter un sentiment d'amertume. Surtout pas. Parce qu'en fait, ce qui est terrible avec l'amertume, c'est qu'on arrive à parfois ne pas en être conscient. Tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose, ça reste enfoui. Et puis d'un seul coup, je le disais, il y a un événement qui révèle. Parce qu'on n'a pas pris soin de garder nos pensées. Il n'y a pas longtemps, à Colomiers, une fois par mois, on fait un culte de famille, où on adapte un peu le culte. On ne veut pas que les enfants soient toujours à l'écart. Donc une fois par mois, on fait le culte tous ensemble. Et donc, évidemment, on adapte. On essaie de faire une prédication plus à leur portée. Et je leur ai parlé de la question de la maîtrise des pensées. Donc j'ai pris comme image les oiseaux qui viennent sur un arbre. Peut-être vous l'avez déjà vu cette image, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Et en fait l'image c'est les pensées, on ne pourra jamais les empêcher de venir. D'accord ? Je ne sais pas si vous êtes capable de dire, moi je n'ai jamais de mauvaises pensées. On a tous des mauvaises pensées qui arrivent. Et je leur disais, vous voyez, c'est comme les oiseaux, ils viennent sur l'arbre et ils se posent sur les branches. J'aurais posé la question, est-ce que vous pouvez empêcher un oiseau de se poser sur une branche? Alors évidemment, les petits au début, ils disaient, oui. Je lui dis, oui, pendant combien de temps tu vas pouvoir? Je donnais l'exemple, tu as une maison et tu as un arbre dans ton jardin. Est-ce que tu vas pouvoir empêcher que les oiseaux se posent sur les branches? Oui. Je dis, combien de temps tu vas devoir rester sans dormir? Parce que les oiseaux, ils vont venir la nuit. Ils vont venir pendant que tu es à l'école. Ils vont venir... Alors, ils ont fait, ah oui. Non, tu ne peux pas empêcher un oiseau. Mais par contre, est-ce que tu peux empêcher un oiseau de faire un nid dans l'arbre qu'il y a dans ton jardin? Et là, la réponse est oui. Parce que même si je suis allé au travail, que je rentre et que je vois qu'il a commencé à construire le nid, je vais faire quoi? Je vais le casser. Et puis, si le lendemain il a recommencé, je vais le casser. Au bout d'un moment, il va aller chercher un autre endroit pour habiter. Mais les pensées, c'est la même chose. Les pensées, on ne peut pas les empêcher d'arriver, de se poser là sur les branches. Il y avait une image avec un cerveau et des oiseaux dedans. J'avais réussi à trouver ça sur Internet. Et je dis, vous ne pourrez pas empêcher. Et la pensée de l'amertume, on ne peut pas l'empêcher. C'est une réaction humaine. Quand on nous a fait une injustice, y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui n'est pas bon. Hein. Sauf qu'on a la possibilité de dire non, tu ne viendras pas habiter là. Tu t'es posé sur la branche, ok, mais maintenant, tu t'en vas et tu ne viendras pas habiter. Et en fait, j'expliquais aux enfants que la meilleure solution pour les pensées, c'est de les chasser tout de suite quand elles arrivent. Et c'est valable pour toutes les mauvaises pensées. On les chasse tout de suite, tout de suite. Après, quand elles ont fait leur nid, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce frère aîné, il n'a pas eu cette attitude de chasser cette pensée. Et il a cru, certainement, peut-être, je ne sais pas, là j'extrapole, mais peut-être il a cru que c'était réglé cette affaire-là, que c'était pas grave. Sauf que quand il a été confronté à la réalité, il n'a pas pu, c'était au-dessus de ses forces de se réjouir du retour de son frère. Et en même temps, je me dis, est-ce que lui aussi, il n'est pas passé à côté du plan de Dieu pour sa vie? Parce qu'il avait tout, mais en fait, il était frustré de ne pas avoir fait comme son frère. Essayer de voir un peu ailleurs, puisque l'attitude nous le révèle. Et son père est obligé de dire, mais t'as tout. Il se plaint qu'il tue le veau gras pour lui. Mais moi, tu ne l'as jamais fait pour moi. Mais le père lui dit, mais si tu veux prendre un veau gras et faire la fête avec tes amis, mais sers-toi. Et en fait, des fois, on est chrétien, on vient à l'église, tout est bien, etc. Mais on est frustré. Moi, je le dis honnêtement, les premières années où j'ai suivi le Seigneur, j'avais des frustrations quand je voyais mes copains sortir, faire des trucs. Ça, je disais, oh, mais moi, je suis chrétien, je n'ai pas le droit. Et en fait, on ne le fait pas pour faire plaisir au Seigneur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on envie les pécheurs. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans les premiers pas de votre conversion. Moi, je suis honnête, je le dis. Il a fallu un temps pour que je ne dise plus, il ne faut pas que j'y aille, il ne faut pas que je fasse ça parce que je suis chrétien. Mais c'était juste que maintenant l'Esprit de Dieu était vraiment en moi et ces choses-là, je n'avais pas envie de les faire. J'y allais pas en disant « mais j'ai pas le droit, je suis chrétien ». C'est « j'ai pas envie, ça m'intéresse pas ». Vous voyez, il y a une étape qu'on franchit dans sa marche chrétienne. J'espère que ceux qui sont convertis depuis longtemps, ils l'ont franchi. Si vous êtes convertis depuis peu, priez pour franchir cette étape. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'obéis pas à Dieu à reculons. Mais en fait, j'obéis parce que je crois que c'est ça qui est bien pour ma vie. Et je le fais de tout mon cœur. Et je... Voilà, ça fait maintenant, je ne vais pas dire le chiffre, mais plusieurs dizaines d'années que je suis le Seigneur. Et j'ai croisé beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Ils sont sincères, ils veulent marcher avec le Seigneur. Mais on sent qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux d'être chrétiens. Il y a une espèce de frustration, je ne sais pas comment l'expliquer. Et ils sont comme ce fils prodigue, le fils aîné. Ils sont comme le fils aîné. Et ils sont dans cette frustration. Ils ne sont pas heureux. J'ai entendu, je me rappelle, je retrouve des comparses du groupe de jeunes d'Albi ce soir. Il y en a trois là, qui étaient avec moi quand j'étais responsable jeunesse à Albi. Et je me souviens d'un jeune qui était dans le groupe, qui avait quitté, il avait abandonné du jour au lendemain, baptisé tout le gars bien, il avait quitté l'église du jour au lendemain. Et je l'avais revu, il m'a dit, tu peux pas savoir comme je suis libre maintenant que je ne suis plus à l'église. Et je lui dis, mais quand tu étais à l'église, alors tu n'étais pas heureux. Mais pourquoi tu t'es engagé avec le Seigneur alors? Enfin, il y avait une espèce de contradiction. Mais des fois, il y a des gens, ils s'engagent. Et en fait, c'est une espèce de chose contre nature. Ils s'engagent parce qu'ils savent que c'est ça qui est bien pour eux, mais ils le vivent mal. Ils sont là, ils sont dans une espèce de combat intérieur. Et en fait, là, je comprends que quand il arrête, au moins, il est libre. Il est en phase avec lui-même. Mais moi, je crois, et le Seigneur Jésus le dit, hein, je suis la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Et quand on a vraiment connu Jésus-Christ, parce que quand il dit la vérité, c'est de Jésus qu'il est parlé. Hein. Des fois, j'ai entendu une prédication où nous expliquait que c'était la parole. Mais c'est vrai, là, Jésus, c'est la parole faite chair. Mais on disait la Bible. Non, c'est Jésus qui nous rend libre. C'est Jésus qui nous rend libre. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et il nous rend libre. Et quand vraiment on a donné sa vie à Jésus, qu'on s'est laissé transformer par lui, on le suit dans la liberté. Amen. Et il faut respecter dans cette liberté l'évolution de chacun. L'évolution de chacun. Parce que des fois, on veut forcer des gens à franchir des paliers alors qu'ils ne sont pas prêts. Laissons-les avancer, progresser. Moi, j'ai appris, j'ai pas toujours parlé comme ça. Hein. J'ai été à un moment donné exigeant et dur. Mais avec le recul, maintenant, quand je vois ma vie, et je pense que vous le vivez tous, je vois des périodes de ma vie où j'étais chrétien, et aujourd'hui, j'en ai honte. Alors qu'avant, je pensais que j'étais un bon chrétien. Mais en fait, j'ai franchi des paliers. Et bon, après, je me reprends et je me dis, t'as pas à avoir honte. T'en étais là, dans ton chemin. Et Dieu merci, t'as fait des progrès. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme je suis aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, je regarderai, je dirai, oh Luc, à cette époque-là, mais c'est sûr même, je me le dirai, c'est sûr. Parce qu'on progresse toujours. Mais Dieu nous rend libre, parce que, pourquoi il nous rend libre? Parce qu'on n'est plus sous la condamnation. Ok, Luc, t'es pas parfait, ok, mais le Seigneur, il t'a lavé, il t'a purifié de tes péchés. Et tu le suis sur le chemin, il est ton Seigneur, il t'accompagne. Et ce fils aîné, il aurait dû vivre ça, il n'arrivait pas à le vivre. Et donc, en fait, quand on fait le parallèle entre les deux, leurs destins sont totalement différents. Mais en fait, on se rend compte que tous les deux, quelque part, ils sont malheureux. Ils n'ont pas su apprécier à sa juste valeur ce que leur père leur donnait. Et j'aimerais vous dire que c'est la nature de l'homme. L'homme en lui-même ne sait pas apprécier la valeur de ce que Dieu lui donne. Vous êtes d'accord avec ça? On ne sait pas l'apprécier. Si on le savait d'ailleurs, je pense que tout le monde serait chrétien. Et on est obligé de faire des efforts pour convaincre les gens que s'ils suivent Dieu, ça va être extraordinaire. C'est fou, hein ? Alors que Dieu nous donne tout. Déjà, il nous a donné son Fils Jésus. On a tout en lui. Et tout est parfait. Et pourtant, on est toujours en train de chercher ailleurs. Et même quand on est un bon chrétien, moi j'entends parfois, et quand j'exhorte les gens au début des réunions de prière, j'aurais dit, mais abandonnez tout à Dieu. Dieu nous donne tout. Nous, on prie Dieu, puis après, on essaye d'arranger notre affaire. Mais quand on a confié le problème au Seigneur, ben on le laisse le gérer. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout. Il y a des fois, on a des choses à faire quand même. Laissons pas tout au Seigneur. Mais il y a des fois, on le sait, il y a des situations où il vaut mieux qu'on se retire et qu'on laisse faire le Seigneur. Pour conclure sur cette méditation et ce message, moi j'aimerais évidemment terminer en m'attardant sur le troisième personnage de l'histoire. On a parlé des deux fils, mais je pense que le personnage principal, c'est le Père. Quel Père admirable! Quel Père admirable! Et j'aimerais que vous puissiez savoir ce soir que même si notre nature nous fait passer à côté du plan de Dieu, bien souvent, même si nous ne savons pas apprécier à sa juste valeur ce que Dieu nous propose, Dieu a toujours la même attitude d'amour envers nous et il vient toujours nous chercher. Moi, je suis à chaque fois ému quand je lis cette parabole de voir que le Père, après ce que son Fils lui a fait, il est là sur le bord du chemin, il attend le retour. Et quand le Fils arrive, moi, je ne connais plus d'un père qui aurait dit « Ah, ça y est, il arrive. » On va pouvoir parler. Quelle attitude extraordinaire. Moi, je suis à chaque fois ému. Et le fait, pour vous dire qu'on ne connaît pas le père, et le fils ne connaissait pas son père. Parce qu'il lui dit, vous avez vu ce qu'il lui dit, il prépare son truc même à l'avance. Hein. « Je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un serviteur. » Vous avez vu ce que le père il fait tout de suite? Il va faire chercher les habits et les bijoux qui représentent qu'il est toujours le fils dans la maison. Ce n'est pas anodin qu'ils aillent chercher les anneaux. Et ça voulait dire qu'il le rétablissait en tant que fils. Et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Nous, on a du mal avec ça. Quand on nous a fait un coup aussi terrible, on a du mal à accueillir la personne en la rétablissant tout de suite au rang où elle était quand elle est partie. Hein. Je suis aumônier de prison et je dis toujours aux détenus, Dieu vous a pardonné, vous êtes maintenant des nouvelles créatures, mais pour les hommes, vous devrez aller jusqu'au bout de votre peine et faire tout ce que vous avez à faire, parce que les hommes ne sont pas comme Dieu. Et je trouve cette attitude vraiment merveilleuse. Et c'est l'attitude que Dieu, mon Père, a eue envers moi et qu'il a régulièrement envers moi. Chaque fois que je reviens vers lui repentant, il ne m'a jamais destitué de mon rang de fils, de mon rang de pasteur, de mon rang de ceci, de cela. Pourtant, il pourrait trouver des arguments. Hein. Déjà, s'il avait regardé les arguments, il ne m'aurait jamais appelé à être pasteur. Bon, déjà d'entrée. C'est un Dieu de grâce, un Dieu extraordinaire qu'on a. Et la même attitude vis-à-vis de son autre fils. Moi, j'aurais été énervé de voir qu'il n'est même pas capable de se réjouir de ce qui se passe. Quand on imagine la joie qui bouillonne dans le cœur du père et qu'il voit que son fils, il est en colère et qu'il ne veut pas participer à la fête, il le supplie de venir. Encore, il se rabaisse devant lui, mais viens. Et ce que je trouve frustrant dans la parabole des deux fils, vous voyez, moi aussi j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, c'est qu'on ne sait pas la fin en fait. On ne sait pas s'il est allé finalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le fils aîné? J'espère de tout mon cœur qu'il a fini par écouter son père et aller se réjouir. Mais en tous les cas, le père s'est tourné vers les deux et à aucun moment il utilise la pression, quoi que ce soit pour essayer de changer le comportement des fils. Le fils, il n'a même pas essayé de le convaincre au moment où il vient le voir pour partir. Il dit « Ok, tu veux partir, pars. » C'est... Moi, j'aurais parlementé, j'aurais essayé d'argumenter, mais non, tu ne vas pas faire ça, etc. Non, c'est... L'attitude de Dieu, elle est extraordinaire. Il nous laisse libres, totalement libres. Il ne nous force en rien. Cet après-midi, j'étais en entretien avec une jeune adolescente de 12 ans. Sa maman vient d'arriver dans l'église, elle m'avait expliqué qu'elle avait des soucis à l'école, etc. Donc j'ai dit, écoutez, si elle est d'accord, amenez-la moi, j'aimerais bien parler avec elle. Donc là, à ma grande surprise, la petite a accepté de me voir, alors qu'on ne sait pas du tout. Et on a parlé. Et en fait, quand je lui ai dit, tu crois en Dieu? Elle me dit, oui, je crois en Dieu. Je lui ai dit, et venir à l'église? Ah non, je ne viendrai pas à l'église. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été dans une église où on l'a forcée. Alors qu'elle était à l'école dimanche, on l'a forcée à prier. On l'a forcée à monter sur l'estrade pour chanter, alors qu'elle ne voulait pas. On l'a forcée à tout. Alors, j'ai rien dit, j'ai pas fait de commentaire, mais je trouve ça terrible, parce que on se croit meilleur que Dieu. Dieu ne nous force pas, il ne force jamais personne. Et nous, on va forcer les gens. C'est tellement beau un enfant qui prie spontanément. Laissons faire le Seigneur. Et si un enfant veut pas prier, ben, respectons-le. Et c'est le Seigneur qui fait son œuvre dans les cœurs, et c'est pas à nous de provoquer l'œuvre du Seigneur. Et moi, je bénis Dieu parce que à la fin de l'entretien, je pense qu'elle a accepté de venir. Et j'espère la voir bientôt à l'église. Voilà. Le Seigneur, il faut qu'il nous transmette ce cœur d'amour qu'il a. Et je dis toujours, donne toujours cette image, hein, si je vous dis Luc c'est moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Luc est amour. Je vois que vous faites... ça vous dérange, hein, si je vous dis ça. Si je vous dis que j'aime ma femme, que j'aime mes enfants, ça vous dérange? Non. Vous voyez, ce n'est pas pareil de dire quelqu'un est amour et quelqu'un est capable d'aimer, il aime. Et en fait, la différence entre Dieu et nous, c'est ça. C'est que nous, on peut aimer, on a des capacités pour aimer, mais Dieu est amour. L'amour, c'est lui. Et donc, moi, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de mettre en œuvre l'amour de Luc. Parce que l'amour de Luc, il va aimer sa famille, ceux qui sont sympas avec lui, ceux avec qui ça accroche. Et puis, ben, j'aurai un peu plus de mal avec ceux avec qui ça accroche pas, mais ça encore, je peux faire un effort. Mais après, avec ceux qui m'ont fait du mal, ça va devenir compliqué. Et donc j'ai besoin, et je prie, pour que l'amour de Dieu puisse régner dans mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui me rendra capable d'aimer mes ennemis. C'est l'amour de Dieu qui me rendra capable d'aimer quelqu'un que personne ne peut aimer ici sur cette terre, tellement il est pénible et désagréable. Mais Dieu nous donne de vivre cette dimension surnaturelle de l'amour. Je vous assure que c'est vrai. On peut vivre des choses incroyables et on se surprend soi-même, on dit « mais comment j'ai pu faire ça ?» Mais en fait, ce n'est pas nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, hein, il est dit que par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu a été répandu par son Esprit en nous. Et quand on dit aux gens « soyez remplis de l'Esprit », la première manifestation, c'est l'amour. Lisez Galates 5, 22. Alors bon, on ne va pas faire un débat théologique pour savoir si les neuf émanations du fruit de l'esprit, elles sont dans l'ordre ou pas dans l'ordre, mais moi je suis convaincu que ce n'est pas un hasard que l'amour c'est en premier. J'en suis convaincu. Et la première expression, là je pourrais vous faire une deuxième prédication là-dessus, la première expression de la puissance, de la manifestation de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce qu'il y a toujours en premier. Bien sûr, il est justice, bien sûr, il est le péché, etc. Mais la première manifestation, c'est l'amour. Et moi, je le vois dans cette parabole. Je vois ce Père qui manifeste l'amour. Et moi, j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie d'être comme ça avec mes enfants, j'ai envie d'être comme ça avec les chrétiens de mon église, avec ceux que je côtoie, avec mes collègues de travail, avec mes voisins. Et je sais que si lui ne me remplit pas, je ne suis pas capable. Donc soyez remplis de l'esprit, c'est premièrement ça. Après, on pratiquera les dons spirituels, après on parle en langue, après tout ça c'est bien aussi, et c'est des choses qu'on recherche. Mais la première chose, moi je veux Seigneur être rempli de ton esprit pour manifester cet amour qui est en toi. Amen. Manifester cet amour. Alléluia. Le Seigneur, vous savez quand il est dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Là aussi, on pense à la Pentecôte, le parler en langue, et voilà, ils ont été revêtus, etc. Mais la première chose qu'ils ont reçue, c'est l'amour pour aller prêcher aux âmes, pour avoir compassion des perdus, pour faire tout ce qu'ils ont fait, les apôtres. Ils étaient conduits par l'amour de Dieu. Amen. Ils étaient conduits par ça. Bien sûr qu'après, ils ont reçu les dons de puissance, ils ont reçu tout ça. Mais Jésus le dit, hein, comment les gens verront qu'on est ses disciples ? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Au fait que nous soyons capables d'aimer comme lui nous a aimés. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Et je vous assure que l'Église qui manifeste l'amour de Christ, elle se multiplie. Les âmes viennent en grand nombre, quand ils ressentent l'amour de Christ. Bien sûr, après, on va leur prêcher, on va les enseigner, tout ça. Mais la première étape, c'est leur montrer que Dieu les aime. Quand on saute sur quelqu'un qui arrive pour la première fois à l'église, on commence à lui dire, il ne faut pas que tu aies une boucle d'oreille, il ne faut pas que tu aies ceci, il faut... En haut, tu vis en concubinage. Une personne qui arrive à l'église, elle a besoin qu'on l'aime, qu'on lui manifeste de l'amour. Après, le reste, c'est l'enseignement qui est donné, et c'est aussi le travail du Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. J'élude pas ça du tout hein, dans ma prédication. Mais je laisse le Seigneur le faire. Je laisse le Seigneur faire cette œuvre de conviction de péché. C'est lui seul qui peut le faire. Moi, j'ai jamais convaincu de péché personne. J'ai essayé, des fois, hein. On est humain. Et des fois, on essaye, mais on provoque juste des gens qui essayent de nous faire plaisir, mais qui ne sont pas convaincus eux-mêmes, donc ça va pas aller très loin. Et je pense que quand vraiment on laisse le Saint-Esprit, nous on témoigne l'amour du Christ et on prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs, alors on voit la gloire de Dieu. Amen. Une partie des choses qui sont sorties de ma bouche, c'est le Seigneur qui les a transmises et qui les a dit à certains qui en avaient besoin. Et je vous encourage vraiment, quand vous pensez à cette parabole des deux fils, à penser à deux choses. La première, c'est ne passez pas à côté de ce que Dieu vous donne. Dieu vous a tout donné. Ne passez pas à côté, n'allez pas chercher ailleurs. Ne soyez pas frustrés, demandez au Seigneur de vous rendre libre. Amen. Et puis la deuxième chose, soyez certains de l'amour de Dieu pour vous. Un amour inconditionnel. Et soyez encouragés à demander et à vivre cet amour de Dieu qu'il veut déverser en vous pour que vous, ensuite, vous le déversiez autour de vous. Amen.